Bon, pour notre plongée d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un animal quasiment aveugle, qui pèse le poids d'un chien moyen, qui est capable de déplacer une tonne de terre par an et dont l'habitat souterrain a même permis de sauver des tortues d'un immense incendie de forêt.
C'est vrai que, dit comme ça, on dirait complètement le pitch d'un film fantastique.
Grave. Mais en fait, non, c'est le portrait strictement biologique du blaireau européen. Et pour percer les secrets de ce terrassier nocturne, notre analyse s'appuie sur des documents un peu inhabituels. C'est pas des rapports de chercheurs universitaires très austères, quoi.
Ah non, pas du tout. Ce qu'on a sous les yeux, c'est le journal de bord méticuleux d'une vraie enquête de terrain. Et elle a été menée par qui? Par une classe d'école primaire.
Ouais, c'est fou.
Les fameux filous d'Ennery dans le Val d'Oise. En gros, entre janvier et avril 2026, ces élèves ont transformé le bois d'Housset en un véritable laboratoire, quoi.
C'est ça qui est génial, le contraste est juste saisissant. On a d'un côté ce mammifère nocturne insaisissable, souvent perçu comme un peu grognon ou solitaire.
Ouais, l'image classique du blaireau.
Exactement. Et de l'autre, on a des enfants de primaire qui jouent les détectives, qui épluchent des vidéos infrarouges prises à 2 h du matin pour percer ses secrets. C'est un vrai thriller écologique en direct.
Totalement. Ils ont installé des pièges photographiques, ils ont noté des dizaines d'orages, ils ont croisé tout ça pour déconstruire les mythes sur cet animal. Et ça prouve qu'avec de la rigueur, on peut découvrir des choses incroyables sur la faune qui vit littéralement sous nos pieds.
Mais du coup, pour bien comprendre ce que les élèves ont observé sur leurs écrans, il faut d'abord qu'on regarde de plus près l'équipement biologique de notre suspect. Parce que c'est assez radical.
À ça, le blaireau, c'est pas n'importe qui. Il fait partie de la famille des Mustélidés.
Donc ça, c'est la famille des loutres, des belettes, c'est ça?
Ça, la loutre, la martre, tout ça. Mais le blaireau se démarque vraiment par son gabarit. Faut savoir qu'en Europe, c'est le deuxième plus gros mustélidé, juste derrière le glouton. Un adulte, en moyenne, ça pèse dans les 12 kilos.
D'accord, 12 kilos, ça va encore.
Oui, sauf que sa stratégie pour passer l'hiver implique une prise de masse énorme. Les relevés des élèves mentionnent des individus qui peuvent atteindre 27 kilos à l'automne.
Attends, 27 kilos? Mais c'est massif!
Ah ben, il double de volume, quoi. Il fait des réserves de graisse incroyables.
Du coup, son anatomie suit cette masse. Moi, quand j'ai lu les fiches descriptives, l'image qui m'est venue, c'est celle d'une mini pelleteuse sur mesure.
C'est exactement le terme. Il est taillé pour creuser.
Tout à fait. Le corps est super trapu, cylindrique, il est presque collé au sol. Et la démarche, les sources disent qu'elle est plantigrade.
Oui, ça veut dire qu'il marche comme nous, en fait. Toute la pomme repose sur le sol, ce qui lui donne une stabilité maximale.
Et il en a bien besoin de cette stabilité, parce que ses outils de terrassement sont impressionnants. Ses pattes avant ont 5 doigts, avec des griffes non rétractiles.
Et super puissante. Contrairement à un chat qui s'en sert pour attraper une proie, le blaireau, lui, il s'en sert comme d'une pioche pour pulvériser la terre et les racines. D'ailleurs, chez les vieux individus, on voit que les griffes des pattes arrière finissent par être complètement limées à force d'évacuer la terre que l'avant vient de creuser.
Ah ouais, la déformation professionnelle du terrassier, quoi. Mais il y a un détail évolutif sur lequel j'ai un peu bloqué dans le journal des élèves. Il documente ce prédateur nocturne, massif, mais la science nous dit qu'il a des tout petits yeux et qu'il voit en noir et blanc.
C'est vrai que ça paraît contre-intuitif.
Bah oui. Je me suis dit que c'était un gros défaut d'évolution. Comment un animal, presque aveugle, qui détecte que les mouvements, peut dominer un environnement forestier aussi complexe?
En fait, c'est là que ça devient fascinant. La vision, ça sert à rien quand on vit dans le noir total, d'un terrier ou en pleine nuit en forêt. L'évolution a juste mis le paquet ailleurs.
Sur l'odorat, du coup?
L'odorat, oui, mais aussi le toucher. Son museau est ultra musclé, c'est une vraie sonde, et il est rempli de vibrisses.
Les vibrisses, c'est les moustaches, genre comme les chats.
Voilà, de longs poils ultra sensibles qui captent les moindres variations d'air. Le blaireau, il regarde pas son environnement, il le sent et il le palpe.
D'accord. Mais ça amène une question évidente. S'il se fiche des couleurs et qu'il voit presque rien, pourquoi est-ce qu'il a ces fameuses rayures noires et blanches sur la tête? L'instinct voudrait qu'un animal nocturne essaie de se camoufler, non?
Bah ouais, avec un pelage tout noir. Mais là, c'est ce qu'on appelle l'aposématisme.
L'aposématisme.
C'est une stratégie où, au lieu de se cacher, l'animal affiche un signal d'avertissement. Dans la nuit, le contraste noir et blanc de sa face, ça fonctionne comme un gilet réfléchissant.
Ah, genre, attention, je suis là.
Exactement. C'est un message pour les prédateurs. Ça dit « Je suis là, ma peau est hyper épaisse, je suis agressif, donc viens pas te frotter à moi. » Ça lui évite de se battre et de gaspiller son énergie bêtement.
Un panneau danger portatif, en gros. Mais le plus drôle, c'est qu'avec cette armure et cette réputation de dur à cuire, son régime alimentaire, c'est pas du tout celui d'un super prédateur sanguinaire.
Ah bah non, pas du tout. Même s'il est carnivore sur le papier, son tube digestif est beaucoup plus long que celui du renard. Ça prouve qu'il est profondément omnivore.
Les enfants ont noté qu'il mangeait des fruits, des insectes, des racines, parfois des amphibiens. Mais la vraie révélation, le carburant de cette mini-pelleteuse, c'est les vers de terre.
Ah, les lombrics, c'est son péché mignon. Les nuits humides, il aspire littéralement les vers qui remontent à la surface. Un seul blaireau peut engloutir jusqu'à 100 kilos de vers de terre par an.
100 kilos! C'est vertigineux! D'ailleurs, petit point pratique noté par les élèves, faut surtout pas lui donner de viande crue, de tomates ou de sucre. Ça le rend malade.
Oui, son système n'est pas fait pour ça. Et toute cette énergie qu'il tire des vers, il l'investit dans l'architecture. Et c'est là que l'enquête des élèves prend une autre dimension.
Absolument. Parce qu'ils ont cartographié le terrain, au bois doucé, et ils ont fait une découverte majeure sur les terriers. Ils ont compris qu'il y en avait deux types différents.
C'est ça. Au début, ils ont trouvé un terrier près d'une souille.
Une souille, c'est les flaques de boue pour les sangliers.
Voilà. Donc un terrier là. Mais en cherchant bien, à 400 mètres de là, de l'autre côté d'un vallon, ils sont tombés sur une structure gigantesque. C'est la distinction parfaite entre un terrier secondaire et la blairotière principale, qu'on appelle souvent la forteresse.
Moi, la comparaison qui m'est venue en lisant ça, c'est une grande ville. Le terrier principal, la forteresse dans la butte, c'est la banlieue résidentielle historique, la grande maison familiale. Et le terrier secondaire, à 400 mètres près de la flaque de boue, c'est la chambre d'hôtel pour le voyage d'affaires.
C'est une excellente image. Le terrier secondaire permet au blaireau de se reposer tout près d'une zone riche en nourriture, sans avoir à faire le trajet inverse au petit maton.
Mais du coup, cette forteresse, cette maison historique, elle a quoi de si spécial?
Oh, elle est monumentale. C'est un complexe qui se transmet de génération en génération. Faut s'imaginer des galeries qui descendent jusqu'à 4 mètres sous terre, sur 300 mètres de long. Il y a des chambres avec des litières de feuilles mortes qu'ils changent régulièrement pour éviter les puces, des pouponnières, des conduits d'aération.
Et ça, c'est pour combien d'individus?
Un clan typique, c'est juste 2 à 5 adultes. Mais leur réseau peut avoir jusqu'à 40 entrées.
C'est un délire. Mais attends, j'ai lu un truc dingue dans les sources. On a un animal territorial qui a un gilet réfléchissant naturel sur la tête pour faire peur, qui bâtit une forteresse et il laisse des renards ou des lapins s'installer chez lui. C'est quoi le projet? Pourquoi il tolère ça?
C'est pas de la générosité, hein. C'est juste de la ségrégation spatiale.
C'est-à-dire?
Le réseau est tellement gigantesque que le blaireau n'utilise pas tout en même temps. Il y a des ailes entières qui sont vides, donc un renard ou une martre vient s'y incruster. Le blaireau les tolère à contre-cœur parce qu'ils ne se croisent presque pas. Ça fait de lui un véritable ingénieur écologique.
Il construit des logements sociaux pour toute la forêt sans le vouloir, quoi.
C'est ça. Il y a même cette anecdote folle en Espagne.
Ah oui, lors des incendies.
Voilà, dans le massif des Alberts. Après un feu de forêt énorme, on a retrouvé des tortues d'Hermann vivantes. Elles étaient descendues dans les étages inférieurs d'une blaireautière pour se protéger des flammes.
C'est fou de se dire qu'une tortue a la vie sauve grâce au talent de pelleteuse d'un mustélidé. Mais bon, au-delà de l'architecture, ce qui est passionnant dans le travail de la classe d'Anneri, c'est les vidéos à l'intérieur du clan. Ça casse complètement le mythe de la bête asociale.
Totalement. En janvier, les caméras ont filmé une scène incroyable entre deux individus que les enfants ont appelés B1 et B2.
C'est la fameuse nuit du 28 au 29 janvier. Moi, je m'attendais à une baston territoriale.
Et pas du tout. Loin de se battre, ils se frottent l'un contre l'autre. Ils partagent l'entrée.
Le journal parle de toilettage mutuel et même de jeux. Des adultes de 15 kilos qui font des roulades et qui émettent des petits rires. Enfin, des petits couinements en staccato. C'est pas vraiment l'image du monstre grognon.
Non, ça prouve qu'ils ont une vie sociale hyper riche. Et ça montre aussi qu'en hiver, ils n'hibernent pas totalement. C'est un repos hivernal basé sur leur graisse stockée.
D'où les 27 kilos de l'automne.
Exactement. Mais l'enquête des élèves, elle prend carrément une tournure de suspense en mars.
Ah oui. Le mois de mars, c'est le drame sur les vidéos. Les blaireaux disparaissent complètement des écrans. Plus personne. Et à la place, qu'est-ce qu'on voit? Un renard qui rentre et qui sort de la forteresse frénétiquement. Les gamins ont dû paniquer, non?
Bah, ils ont une réaction très logique. Ils se sont dit que le renard avait chassé les blaireaux. Ou pire.
Surtout que le renard mange les petits.
Voilà. Mais le dénouement arrive en avril. Le 6 avril, c'est la victoire totale. Les caméras capturent enfin ce qui se passait vraiment.
Des naissances.
Oui. Les petits blaireautins s'aventurent dehors. Si les adultes avaient disparu, c'était juste pour rester confinés avec la portée et les protéger du froid.
Et alors là, la biologie du blaireau nous sort un autre tour de magie. L'accouplement se passe souvent en hiver, vers janvier et février. Mais les naissances ont lieu un an plus tard. Donc la blairelle a littéralement un bouton pause pour sa grossesse.
C'est exactement ça. On appelle ça l'ovo-implantation différée.
C'est-à-dire que l'ovule est fécondé, mais il attend.
C'est ça. L'ovule fécondé flotte dans l'utérus sans s'y fixer pendant près de 10 mois. Et il ne s'implante que pour que les bébés naissent pile à la fin de l'hiver.
Mais pourquoi une telle complexité?
C'est une question de survie vitale. Faire naître des petits au début de l'hiver, ce serait du suicide. Il fait trop froid, il n'y a pas assez de vers de terre. En décalant la naissance au printemps, la mère s'assure qu'il y aura de la nourriture.
Et c'est crucial, parce que les sources soulignent que la mortalité infantile est effarante chez cette espèce.
Ah oui, entre 30 et 60% des jeunes meurent la première année, de maladies, de faim ou attrapés par des prédateurs.
Donc voir ces bébés jouer devant le terrier en avril, c'est un vrai petit miracle écologique.
Et ces blaireautins, s'ils survivent, ils vont devenir des piliers de la forêt.
Oui, leur rôle est fondamental. En brassant le sol, ils l'aèrent. Et puis, il y a leur système de latrine.
Ah oui, ils creusent des petits trous spécifiques juste pour faire leurs besoins. C'est hyper hygiénique et surtout, ça enrichit considérablement le sol en azote. Et comme ils mangent beaucoup de fruits, ils dispersent les graines partout sur leur territoire. Ils favorisent plein d'arbres, comme le sureau noir, par exemple.
Sauf que, et c'est là que le rapport devient beaucoup plus sombre, ces animaux essentiels font face à des menaces humaines assez terribles.
Oui, le contraste est rude.
D'un côté, on a des enfants émerveillés, et de l'autre, on lit les conséquences de notre monde moderne. L'agriculture intensive détruit les lombriques, donc leur nourriture. Le trafic routier fait des ravages parce qu'ils ont de vastes territoires à patrouiller. Mais le pire, c'est la pratique du déterrage.
C'est une pratique qui fait beaucoup débat. Le blaireau est une espèce protégée en Europe depuis 1981. On estime qu'il y en a environ 150 000 en France. Mais il y a des dérogations. En France et en Allemagne, on peut encore les chasser par déterrage.
Et la description de cette chasse, on se croirait vraiment au Moyen-Âge. Les chasseurs envoient des petits chiens dans les galeries pour coincer le blaireau au fond. Ensuite, ils creusent depuis la surface.
Oui, c'est ça, parfois sur plusieurs mètres.
Et ils l'attrapent avec des énormes pinces métalliques articulées. Les textes précisent que c'est classé non vulnérant, mais on s'en doute c'est dévastateur pour l'animal et pour le terrier millénaire. Avant de le tuer au fusil ou au couteau. Alors, que conclure de tout ça? On a cet ingénieur écologique incroyable face à une traque souterraine brutale.
Ça pose une question fondamentale sur notre rapport à la faune sauvage. Ce n'est pas un nuisible. Les dégâts agricoles qu'il cause sont vraiment exceptionnels. En fait, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie.
Une espèce parapluie, donc ça veut dire que si on le protège lui, on protège tout le reste en dessous.
Exactement. Protéger son habitat, ses terriers, les sols riches en vers dont il a besoin, ça garantit la santé de toute une chaîne écologique autour de lui. Et c'est ça la grande leçon des filous d'Enneri. Leur travail de fourmi prouve que la science de terrain avec des pièges photographiques et beaucoup de patience, ça offre des récits fascinants sur la biodiversité.
Ça donne vraiment envie de regarder la forêt autrement. D'ailleurs, quiconque se promènera en forêt ce week-end devrait s'en souvenir. La prochaine fois que le sol résonnera un peu sous vos pas, dites-vous qu'il y a peut-être un véritable château souterrain juste en dessous, habité par des générations de blaireaux.
Et ça, c'est magique.
Et pour finir, je voudrais partager une dernière réflexion hyper provocatrice qu'on trouve dans les notes des élèves. Ils ont remarqué une chose dingue au bois d'Ousset.
Ah, l'histoire de l'arbre feigne.
Exactement. En creusant parmi les racines pour consolider l'entrée de sa forteresse, le blaireau fragilise l'ancrage de l'arbre au-dessus de lui. Et là-bas, il y a un arbre géant qui penche déjà à 60 degrés à cause des galeries.
C'est vrai que c'est fascinant d'y penser.
Ben oui, parce que si on réfléchit sur des centaines d'années, ça veut dire que l'ingénierie invisible de cet animal dicte carrément la forme de la forêt. Il finit par faire tomber certains arbres géants, ce qui crée de nouvelles clairières. C'est la preuve ultime que ce qui se passe dans l'obscurité totale finit toujours par modeler la lumière. Sur ce, merci de nous avoir suivis dans cette exploration.